France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, le lieu le plus célèbre pour apprendre quelque chose sur son avenir, mais aussi sur son passé, qui reste le plus longtemps inconnu, et sur le présent, presque toujours insaisissable, était l'immense sanctuaire du dieu Apollon à Delphes, au pied du mont Parnasse, altitude de 1457 mètres, et de ses rochers, qui avaient tendance à s'effondrer les jours de séisme. C'était grandiose, spectaculaire, couvert de statues, de richesses, à la fois sauvages et incroyablement civilisées. Pendant des siècles, le dieu Apollon y a parlé aux mortels. Ses oracles avaient un immense prestige. Ils aidaient ceux qui interrogeaient le dieu à gérer leur vie domestique, mais aidaient aussi les États, grecs ou étrangers, à prendre des décisions capitales pour leur sécurité, pour leur survie, et capitales pour la survie de ceux que ces États voulaient attaquer. Il fallait d'abord s'assurer que le dieu était d'accord avec l'agression prévue.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Pour le voyageur d'aujourd'hui, Delphes reste un lieu habité par un mystère qui touche tellement notre âme qu'une seule visite enracine ce haut lieu pour toujours dans le cœur de notre mémoire. Zeus, le grand maître du panthéon olympien, choisira Delphes comme principale demeure pour ses deux fils préférés, Apollon et Dionysos.
L'oracle de Delphes était une référence absolue, mille fois invoquée, mais en fait, on ne sait toujours pas bien comment Apollon s'y prenait pour donner ses réponses. Il le faisait au fond de son temple, dans le sein des saints, dans la pièce qu'on appelait Aduton, là où on n'entre pas. C'est comme si personne n'avait voulu révéler ce qui se passait dans ce lieu secret, alors que des milliers de gens sont venus consulter le dieu. Dans cette pièce, au fond du temple, opérait une prêtresse. On l'appelait la Pythie. Elle était, nous dit-on, assise sur un trépied, et d'une manière ou d'une autre, elle chantait ses oracles, qui souvent étaient, nous dit-on, transmis à l'extérieur aux pèlerins, sous la forme de courts poèmes, composé dans la langue et le rythme des vers homériques, mais pas toujours. La Pythie faisait aussi de la prose. Composait-elle elle-même ses poèmes? Ou était-ce le travail des prêtres qui interprétaient et reformulaient les paroles plus ou moins obscures et articulées de la Pythie? On ne sait pas. En fait, beaucoup de ses poèmes ont dû être écrits longtemps après l'événement prédit.
Qui sont-elles? Les oracles.
Le ciel sans nuages grondera. Tiens-toi prêt.
Julia Sissa, historienne.
La Pythie doit être vierge, et sa virginité, justement, est une manière de disponibilité à l'égard du dieu, de disponibilité totale et absolue. Donc la Pythie ne doit pas être contaminée par tout ce qui pourrait faire écran entre elle et le dieu.
Comment se passait la consultation? On ne le sait pas vraiment. On sait seulement que ça a marché pendant des siècles. Des foules de Grecs, de barbares y ont cru, ont eu besoin des lumières d'Apollon pour affronter leur avenir, toujours opaque, toujours caché aux mortels. L'oracle a parlé pendant toute l'Antiquité. Homère le mentionne. Et Apollon a été loquace jusqu'à l'année 392 de notre ère, quand un empereur romain, qui avait autorité sur Delphes, a fait par décret arrêter le culte du dieu. Une autre religion avait pris le relais et fait le ménage des vieilles croyances. Le christianisme.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Le corbeau croasse et l'herbe croît. Le crapaud coasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Crois, crois, crois. J'ai eu des crises, crises de foi. Dans les églises, il fait très froid. Mais une vierge me réchauffa. Vierge du même signe que moi. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Crois, crois. Là que mon âme ronge son frein, à Notre-Dame j'ai pris le train. Si je m'égare, fermez les yeux, dans une gare je prierai Dieu. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Crois.
Pierre Judet de la Combe essaye de rentrer dans le temple d'Apollon à Delphes.
Nom de Zeus !
Charles Picard, helléniste.
Il arrive que les sites les plus imprégnés d'histoire déçoivent notre imagination. Ce n'est pas le cas. Pour le lieu saint de Delphes, enfoncé dans le repli de la montagne phocidienne au secret du Parnasse, non seulement on sait qu'il y a eu à cette place d'où parlait jadis Zeus souverainement par la voix prophétique d'Apollon, un haut lieu de l'esprit grec, sans doute le plus significatif, mais aussi le paysage a gardé la majesté que le sanctuaire faisait attendre. On ne l'aborde pas sans éprouver sa divine grandeur.
Comment ça se passait une journée à Delphes, les jours de consultation? Quelles expériences vivaient les personnes qui venaient interroger le dieu? Comment ont travaillé les serviteurs d'Apollon? Euripide, le poète tragique athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, nous en donne une idée. Il a mis en scène un jeune homme appelé Ion, qui est au service du dieu dans le temple. En fait, Ion est le fils d'Apollon, mais il ne le sait pas. Il va être au cours de cette pièce confronté à sa mère, une athénienne, qui évidemment ne le reconnaît pas. Elle a déposé le nouveau-né dans une grotte près du temple d'Apollon. Il faut dire que cette naissance n'était pour le moins pas désirée. Comme d'habitude, Apollon avait forcé celle qui allait devenir mère. Nous raconterons cette histoire palpitante où une mère est à deux doigts de tuer son fils une autre fois. La pièce d'Euripide commence au petit matin. Le temple est parfumé. La prophétesse d'Apollon a pris sa place. Le jeune Ion entame son travail quotidien. D'abord, il presse les autres serviteurs du dieu à aller se purifier dans l'eau d'une source toute proche, la source Castalie, dans une faille du mont Parnasse. Les corps, le langage, doivent être purs.
Voici le radieux quadrige. Déjà le soleil fait briller la terre. L'éther en feu chasse les étoiles vers la nuit divine. Les crêtes sacrées du Parnasse, frappées par la lumière, reçoivent pour les hommes la roue du soleil qui apporte le jour. La fumée de la myrrhe des sables monte jusqu'au toit de Phoïbos. Une femme s'assoit au trépied sacro-saint, une delphienne, qui va chanter aux Grecs ce qu'Apollon voudra lui révéler. « Venez, Delphiens, serviteurs de Phoïbos, allez vers Castalie au remous argenté. Baignez dans ses eaux pures, vous pourrez pénétrer dans le temple. Que votre bouche soit religieuse et bienfaisante, et que chacune de vos paroles apporte un bon augure au consultant. »
Quant à lui, il veillera à la propreté et à la beauté du temple. De son arc, il chassera les oiseaux qui viennent dévorer les offrandes des fidèles. Il est donc archer, comme son maître Apollon.
Quant à moi, fidèle à la charge que depuis mon enfance, j'accomplis chaque jour, avec ses rameaux de laurier et ses branches sacrées, je vais purifier le parvis du dieu, répandre de l'eau fraîche, et chasser de mes flèches les vols d'oiseaux qui offensent les saintes offrandes. Moi qui grandis sans mère et sans père, moi qui fus nourri dans le temple, je lui rends mes soins en retour.
Tout est ordre et beauté, ou doit l'être. La pureté doit régner. Le jeune Ion balaye le parvis du temple, là où se trouve l'autel du dieu, avec la branche jeune d'un laurier. Il a puisé de l'eau de la source Castalie. Cette eau est purificatrice. Ion dit qu'il est autorisé à le faire, car il est lui-même resté pur. Arrive une troupe de femmes athéniennes. Elles forment le cœur de la pièce. Ces Athéniennes sont venues avec celle qui, sans le savoir, est la mère du jeune homme. Cette femme veut demander au dieu ce qui est arrivé à l'enfant qui a été déposé près du temple autrefois. Grâce à ces Athéniennes qui découvrent Delphes, nous faisons l'expérience de ce que l'on voit quand on s'approche du temple du dieu. D'abord, c'est monumental, comme les temples de l'Acropole à Athènes.
Notre divine Athènes n'est donc pas la seule cité où les temples des dieux ont de belles colonnes, où les piliers sacrés sont honorés. Chez Apollon Loxias aussi, chez le fils de Leto, rayonnent des frontons jumeaux d'une égale beauté.
Puis nous avons droit à la description des sculptures sur les façades du temple. Ce ne sont que des scènes d'une violence extrême. Des monstres méchants y sont écrasés par des héros très braves ou par des divinités, comme dans les églises, où le diable et ses œuvres sont montrés avec insistance, mais à l'entrée, à l'extérieur du lieu de culte proprement dit. Les désordres, les impuretés, les laideurs du monde sont affichées, mais au dehors, pour être dépassées, dès qu'on pénètre dans l'espace sacré du temple. Bien visible du dehors, il y a Héraclès, qui coupe les têtes de l'hydre de Lerne. Son neveu Iolaos l'aide en brûlant les coups coupés pour que les têtes ne repoussent pas. Il y a Bellérophon qui, monté sur son cheval oiseau, Pégase, découpe la chimère. Il y a l'immense combat des dieux contre les géants. À chaque fois, les bons, les dieux, l'emportent sur les méchants. Mais c'est sanglant.
Vois donc, mais regarde. Voilà l'hydre de Lerne, tombant sous la faux d'or du fils de Zeus. Mon ami, ouvre bien les yeux.
Je vois. Et à côté de lui, un autre héros lève une torche ardente. N'est-ce pas celui qu'on chante chez nous en tissant la toile? Son écuyer, Iolaos, qui voulut jusqu'au bout prendre part aux travaux d'Héraclès?
Et cet autre, Bellérophon, sur un cheval ailé, qui égorge un monstre à trois corps, chimère, dont la gueule lance le feu.
Mes yeux ne savent où se poser. Admirez sur ce mur de marbre le combat des géants.
Nous le regardons, mes amis.
Vois-tu là-bas? Affrontant Encelade et levant son écu qui porte une gorgone.
Je vois Pallas Athéna, notre déesse.
Et puis la foudre au double éclair terrible que lancent au loin les deux bras de Zeus.
Je le vois, le farouche Mimas est réduit en cendres.
Et Dionysos, armé du pacifique bâton, enguirlandé de lierre, tue un autre des fils de la terre.
Ces jeunes femmes finissent par apercevoir Ion. Elles lui demandent si elles peuvent entrer dans le temple. Non, c'est interdit. On ne peut pas rentrer comme ça. Il faut d'abord accomplir un rite très précis.
Toi que je vois là près du temple, peut-on, pieds nus, franchir l'enceinte?
Ce n'est pas permis, étrangère.
Je voudrais bien te demander...
Que désires-tu savoir?
Ce palais enclôt-il vraiment l'ombilique? Centre de la terre?
Sous un réseau de bandelettes, entouré de gorgones.
C'est bien ainsi qu'on le décrit.
Si vous avez offert devant le temple un gâteau consacré et que vous désiriez, souhaitiez Apollon, approchez des autels. Mais vous n'aurez accès à la chapelle qu'après avoir immolé des brebis.
J'ai bien compris. Nous ne transgressons pas la loi de Loxias. L'extérieur suffit bien à enchanter nos yeux.
Contempler à loisir tout ce qu'il est permis de voir.
Mes maîtres m'autorisent à visiter le divin sanctuaire.
L'essentiel de la révélation se déroule dans la pièce du fond du temple, dans ce qui s'appelle le lieu impénétrable. C'est là que tout se passe, et c'est là qu'il y a le nombril du monde. Il s'agit d'une grosse pierre arrondie, recouverte de bandelettes. Cette pierre a toute une histoire. Elle est directement liée à la prise du pouvoir par Zeus sur l'Olympe, à sa victoire définitive sur son père, Cronos. Ce père était le roi des dieux. Comme tout père de la famille royale chez les dieux, il ne voulait pas laisser ses enfants venir au jour, profiter de la vie, se développer. Il avait trop peur qu'ils veuillent le remplacer et lui prennent son pouvoir. Cronos avait alors pris l'habitude d'avaler ses enfants, garçons et filles. Sauf que le dernier enfant conçu par l'épouse de Cronos, la divine Rhea, fut épargné. Rhea en avait assez de voir disparaître ses petits. Elle utilisa une ruse. Au lieu de donner à Cronos le nouveau-né à avaler, elle lui donna une pierre entourée de l'ange. Zeus, l'enfant qu'elle venait de mettre au monde, fut envoyé au loin, caché et abrité dans une caverne en Crète. Quand Zeus fut assez grand, il provoqua son père et le fit vomir. Cronos était vaincu, et la première chose que Cronos recracha fut cette pierre. Zeus fit cadeau de cette pierre aux humains. Il la déposa à Delphes, où elle marque le centre du monde, le nombril de la terre.
Zeus fixa la pierre sur la terre aux larges routes, à Pytho, la très divine, sous les vallons du Parnasse, afin qu'elle soit par la suite un signe, merveille pour les mortels appelés à mourir.
Cette pierre symbolise la victoire de Zeus. Mais elle symbolise aussi une ruse, une tromperie, un stratagème. Les humains, qui ne verront jamais Zeus, ont comme signe visible de sa victoire une preuve de la fourberie divine. Ils n'auront sous les yeux qu'une tromperie. Les dieux peuvent être des menteurs. Mais on n'a pas intérêt à ne pas vénérer cette pierre. Deux gorgones terrifiantes, au regard qui tue la protège. Le monstrueux ne figure donc pas seulement sur les sculptures qui décorent les frontons du temple. Il se loge aussi au plus intime du sanctuaire. Il existe une autre légende sur cet ombilic, ce nombril de la terre. Pour déterminer l'endroit exact qui peut revendiquer d'être le centre du monde, Zeus fit s'envoler deux oiseaux, deux aigles, ou deux corbeaux selon les versions. L'un partit de l'extrême ouest, l'autre de l'extrême est. Le lieu où ils se croiseraient serait celui qu'il faut marquer comme nombril de la terre. Ce fut Delphes. Mais dans ce lieu secret, impénétrable du temple d'Apollon, il y a plus. Il y a le trépied où chaque matin vient siéger la Pythie, la prêtresse d'Apollon, qui est son interprète. C'est elle qui, dans un état de possession, prononce les avis du dieu, ses oracles. On nous dit qu'elle était choisie parmi les femmes de Delphes, qu'elle était à l'origine une jeune vierge. Puis, il y eut des femmes mariées.
Jean-Paul Savignac, historien.
Il semble que Delphes ait été un lieu, je dirais, comment dirais-je, une espèce de Sorbonne de la poésie, un enseignement supérieur initiatique à la poésie. C'est là qu'on apprend à faire des métaphores, peut-être. Peut-être aussi, donc, est-ce là que les paroles sont utilisées comme des signes. Et utiliser la parole comme un signe, c'est au fond peut-être cela que sait faire Apollon, que sait faire la Pythie. Et les signes ne mentent pas. Le langage ment. Mais les signes, surtout envoyés par un dieu miséricordieux comme Apollon, les signes ne mentent pas. Alors quand la parole se transforme en signe, évidemment, elle n'est plus ce qu'elle était avant, elle est transfigurée, changée, glorieuse, éblouissante. Et étant éblouissante, elle aveugle, on ne la comprend pas. Mais en fait, je crois qu'elle est peut-être très simple, trop simple pour les hommes habitués aux mensonges, aux louvoiements. Apollon est le dieu oblique et en même temps le dieu droit, c'est-à-dire celui qui coupe, qui va droit au but.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judé de la Combe raconte comment la Pythie vient en chantant.
Avant que la Pythie ne parle, il fallait qu'on soit sûr que c'était un bon jour pour faire des prophéties. Un écrivain qui a longtemps été l'un des deux prêtres d'Apollon à Delphes, Plutarque, des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, raconte qu'une chèvre, avant d'être sacrifiée, était arrosée d'eau. Il fallait qu'au contact de l'eau, elle soit prise d'un mouvement frénétique pour que le jour soit déclaré propice à la divination.
Que signifie l'aspersion des victimes ou l'interdiction de rendre des oracles lorsque la bête de sacrifice n'est pas secouée de tremblements et de frissons jusqu'aux extrémités des pattes pendant qu'on l'asperge? Car il ne suffit pas qu'elle remue la tête comme dans les autres sacrifices. Il faut encore qu'elle tressaille et palpite en même temps de tous ses membres avec un bruit saccadé. Si ces symptômes ne se produisent pas, on déclare que l'oracle ne donne pas audience et l'on ne fait pas entrer la Pythie.
La chèvre révèle qu'il y a bien lieu d'entrer dans une sorte de transe, qu'il y a bien un contact avec le divin. Si la chèvre ne bouge pas, il ne faut pas forcer le dieu qui a manifesté son envie de se taire. Un jour, des pèlerins étaient venus de loin pour interroger le dieu. Les prêtres ont aspergé une chèvre, mais elle ne bougeait pas. Les prêtres ont insisté, ils l'ont presque noyée, elle mourut. Puis on a forcé la Pythie à prophétiser.
Or, qu'arriva-t-il à la Pythie? Elle ne descendit dans le lieu prophétique, dit-on, qu'avec répugnance et aversion. Dès ses premières réponses, il fut manifeste à sa voix rauque qu'elle ne se remettait pas de son trouble et qu'elle ressemblait à un vaisseau désemparé, étant pleine d'une exhalaison muette et maligne. À la fin, complètement bouleversée, elle s'élança vers la sortie avec un cri étrange et terrible, et elle se jeta à terre, mettant en fuite non seulement les consultants, mais encore le prophète Nicandre et ceux des purifiés qui étaient là. Rentrés quelques instants après, ils la relevèrent sans connaissance, et elle ne survécut que peu de jours.
Si l'épreuve de la chèvre est passée, la Pythie entre dans la salle dite impénétrable et s'installe sur son trépied. Que se passe-t-il? Longtemps a couru une légende qui disait que la Pythie était assise sur son trépied, juste au-dessus d'une faille dans la roche. De cette faille s'exhalaient des vapeurs qui pénétraient son corps et la mettaient en délire. C'est ainsi qu'elle pouvait entrer en contact avec le dieu. Les textes anciens qui parlent de cela sont en fait tardifs. On lit cette description de la Pythie chez un auteur grec, contemporain de Cicéron, l'auteur d'un fabuleux traité sur l'art d'écrire, traité sur le sublime. On ne connaît pas son nom. Il fait un parallèle entre l'inspiration que nous recevons d'auteurs plus anciens et le souffle qui prend possession de la Pythie dans son temple. Ce souffle divin, venu de la terre, entrerait dans le sexe de la Pythie et la féconderait. Mais en fait, cet auteur n'est sûr de rien. Il ne fait que rapporter ce qu'on dit.
Car beaucoup d'écrivains sont transportés par un souffle étranger, de la même façon que, selon ce qu'on raconte, la Pythie, quand elle s'approche du trépied. Il y a là une brèche dans la terre qui exhale, à ce qu'on dit, un souffle divin. Dès lors, devenue enceinte de la puissance divine, sur le champ, elle rend des oracles selon l'inspiration.
Mais des géologues ont analysé le sol du temple d'Apollon. Il n'y a jamais eu de faille dans la roche, d'où des vapeurs auraient pu monter et entrer dans le corps de la Pythie. S'il y a eu quelque chose comme une fumigation, c'est à partir de plantes brûlées. Mais il n'y a pas de source sûre sur cette méthode. Un souffle venait inspirer la Pythie et la mettre en état de révéler ce que le dieu avait à dire. On ne peut tout simplement pas dire de quelle nature était ce souffle. Le dieu avait bien trouvé un moyen d'emprise sur sa prophétesse. Elle prophétisait. Et cela a prouvé l'existence de cette inspiration.
Dominique Mullier, archéologue.
Le lieu où exerçait la Pythie, c'est le temple. Et je dois dire que d'une certaine manière, cette Pythie a continué à exercer sa fascination jusqu'au 19e siècle finissant, puisque quand on a commencé les fouilles, qu'est-ce que l'on cherchait principalement, il faut bien le dire, c'est tout ce qui avait trait à la Pythie. Et on était persuadés qu'en fouillant le temple, eh bien, on allait trouver l'explication. L'histoire de la fouille de Delphes a été l'histoire d'une grande déception parce qu'on n'a rien trouvé. On n'a strictement rien trouvé.
Mais c'est peut-être le secret aussi de ne rien trouver.
Ah, c'est ce qu'on continue à dire. La Pythie, la dernière Pythie, est partie en emportant son secret à jamais. Ouais. Et puis voilà, quoi.
Apollon communiquait à la Pythie ce qu'on appelle l'enthousiasme, enthousiasmos, c'est-à-dire le fait d'être plein du dieu, d'avoir le dieu à l'intérieur de soi. Le mot enthousiasme, enthousiasmos, est tiré de l'adjectif en theos, qui a le dieu en soi, en dedans, et theos le dieu. La Pythie est véritablement envahie par le dieu Apollon. Le souffle divin mettait la Pythie dans un état que les anciens qualifiaient de folie, de délire, mania. D'où vient notre manie et les mots en man qui notent une addiction, opiomane, mythomane, pyromane. En grec, mania se retrouve dans le nom qui désignait les dévotes du dieu du délire, de l'ivresse, Dionysos. On appelait ces femmes les ménades, maenades. Les anciens avaient remarqué que mania, la folie, était proche du mot qui signifie le devin, mantis, que l'on a gardé avec notre mantique pour parler de la divination. Et de fait, tous ces termes sont de la même famille, celle qui a donné le mot latin mens, l'esprit, notre mental. Le délire, la folie, la divination sont des états limites de l'esprit. Ils passaient pour positifs, requis même, s'il fallait que l'âme humaine s'ouvre au divin. Platon, le philosophe, fait l'éloge de la folie dans son dialogue, le Phèdre. Il met en relation trois formes de folie, la passion amoureuse, la poésie, quand le poète est pris par le souffle venu des muses, et la divination.
Le fait est que les biens les plus grands nous viennent d'une folie qui est à coup sûr un don divin. Le fait est là. La prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone, c'est bien sous l'emprise de la folie qu'elles ont rendu de nombreux et éminents services aux Grecs, individus particuliers aussi bien que peuples, alors que dans leur bon sens, elles n'ont à peu près rien fait.
Dans leur état normal, les humains n'ont pas accès à ce qui dépasse leurs conditions présentes. Ils ne peuvent pas se projeter dans le passé, enfoui, ou dans l'avenir, ni même dans la réalité profonde et cachée du présent. Il faut pour cela un délire, de l'enthousiasme, qui surgit avec la soudaineté d'une crise, ou pour tout le monde, et plus sobrement, dans le sommeil, avec les rêves. Mais cet état est encore brutal, nous dit Platon, le philosophe. Comment communiquer cette expérience et la réponse du dieu? Il faut interpréter ce qui a été perçu, et pour cela quitter l'état de transe. Après l'accès de la Pythie au divin, il y eut plusieurs techniques de communication, semblait-il. Si la question posée était une alternative, dois-je faire ceci ou cela? La Pythie pouvait se servir de fèves et tirer au sort la bonne réponse. Sinon, il fallait des interprètes, des techniciens, qui sachent mettre en forme les révélations apportées par le souffle divin. C'est apparemment ce que faisaient les prêtres de Delphes, qui transposaient en vers les révélations de la Pythie. On dit même que ce sont eux qui ont inventé le vers qu'a utilisé Homère. Ou en prose, en grec normal. Comme ces paroles articulées venaient du souffle divin que l'on avait transformé en langage, on disait que c'était la Pythie elle-même qui les avait proférées. Mais la formulation du souffle divin en langage humain n'éclairait pas toujours les humains. Il fallait déchiffrer, trouver un sens et donc faire des choix. On pouvait se tromper. Ainsi, on raconte que les Athéniens étaient effrayés par la guerre que menait contre la Grèce le grand roi de Perse, Xerxès. Il avait commencé à ravager la Grèce avec une immense armée et avançait inexorablement vers Athènes. Des émissaires furent envoyés à Delphes pour interroger le dieu. La Pythie leur fit une réponse en vers. Elle leur annonça que leur pays sera conquis, mais il y avait un moyen de sauver Athènes, un rempart de bois.
À toi, je dirai cette parole que j'ai fixée avec de l'acier. Quand sera conquis tout ce que contiennent la colline de Kécrops et la grotte du Citéron très divin, Zeus, dieu à l'ample regard, accorde à Athéna qu'un rempart de bois soit seul imprenable. Il sera profitable à tes enfants.
Rempart de bois, qu'est-ce que ça veut dire? Certains à Athènes, des vieillards, ont pris l'expression à la lettre et se sont mis à barricader l'acropole avec des planches, ce qui, comme on pouvait s'y attendre, n'a servi à rien. Xerxès a envahi et brûlé l'acropole. Seul Thémistocle comprit que l'expression « rempart de bois » était une métaphore. Le rempart dont parlait la Pythie, c'était la coque des navires qu'Athènes devait construire. La cité, pour se défendre, devait abandonner son territoire, même ce qu'elle a de plus sacré, l'acropole, et devait attaquer les Perses depuis la mer, depuis l'île de Salamine. Thémistocle avait raison. Les Athéniens construisirent à la hâte une immense flotte. Ils laissèrent Xerxès incendier leur ville. Puis, avec d'autres Grecs, ils emportèrent une grande victoire navale sur les Perses, qui furent mis en déroute.
Jean-Paul Savignac, historien.
Je me demande si nous n'avons pas un regret ou un besoin d'oracle. L'oracle me plaît parce que j'entends une divinité parler d'une façon souveraine. Ce qui m'a plu dans les oracles, c'est qu'il y a entre la parole du dieu, transmise par une prêtresse ou parfois par un prêtre, d'ailleurs, à d'autres endroits qu'à Delphes, il y a une parole du dieu qui établit une espèce d'écart entre sa réalité proférée et puis celui à qui elle est adressée. Il y a une sorte de vide savoureux entre cette parole souveraine, éblouissante, fulgurante, et puis l'humble être humain qui vient la solliciter.
Apollon, à Delphes, ne parle pas directement. Il ruse, il trompe, tout en disant la vérité. Il ne cache pas, tout en ne disant pas ce qu'il dit. Il est tordu. C'est pour ça qu'on l'appelait l'oblique, en grec, l'oxias. Il fallait se débrouiller avec cela, mais au moins on savait qu'il y avait quelque chose à comprendre et que l'avenir était d'une manière ou d'une autre contenu dans la phrase qu'on avait entendue. Une direction était donnée au temps futur. Il fallait se débrouiller avec cette indication et être intelligent. Reste un mystère. La Pythie, la prophétesse qui dit le vrai à sa manière, porte un nom bizarre. Pythie et putréfaction sont des mots de la même famille. Comment Apollon le lumineux et son oracle peuvent-ils avoir partie liée avec la pourriture? Nous essaierons de le comprendre la semaine prochaine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. Bonne journée sur France Inter.